Escale, un magazine hebdomadaire de la Radio des Nations Unies. Escale.
Bonjour à toutes, bonjour à tous, au micro Jérôme Longuet. Cette semaine, Escale fait le point sur la lutte contre le terrorisme menée depuis de longues années par les Nations Unies. Un combat qui a évolué au fil du temps pour s'adapter au fléau qui lui-même a sophistiqué ses méthodes de propagande, de recrutement et a multiplié les actes barbares au nom de causes indéfendables ou de prétextes fallacieux. Ainsi, les Nations Unies, outre les nombreuses conventions, ont récemment adopté, par l'intermédiaire du Conseil de sécurité, une douzaine de résolutions opérationnelles qui fournissent désormais aux Nations Unies, aux agences spécialisées du système et à leurs partenaires, de vrais moyens de lutte à la hauteur des enjeux. Pour faire le point sur toutes ces avancées, notre invité est donc le magistrat français Jean-Paul Laborde, sous-secrétaire général des Nations Unies, à la tête de la direction exécutive du Comité contre le terrorisme. Jean-Paul Laborde, bonjour.
Bonjour.
Jean-Paul Laborde, vous êtes donc sous-secrétaire général en charge de la lutte contre le terrorisme. Vous êtes surtout le directeur exécutif du directorat des Nations Unies contre le terrorisme. La lutte contre le terrorisme qui a pris une ampleur très importante ces dernières années. Il y a une réunion actuellement à laquelle donc vous participez pour encore renforcer ce corpus, cet ensemble d'outils contre ce fléau. Quels sont les outils principaux qu'on a justement contre ce fléau ?
Plusieurs outils. D'abord les outils juridiques, qui sont les conventions contre le terrorisme, mais aussi de plus en plus les résolutions du Conseil de sécurité, qui se sont amplifiées. Leur nombre est très important. C'est 14 résolutions qui sont venues ces dernières années sur les questions de combattants terroristes étrangers, protection des infrastructures, coopération internationale en matière pénale, le rôle des femmes dans la lutte contre le terrorisme. Donc, de nombreux éléments. Ça, c'est le point juridique. Mais ce qui est le plus important, c'est de savoir que le terrorisme est un phénomène qui est un phénomène mondial. Et aucun État ne peut prétendre lutter contre le terrorisme tout seul. C'est impossible, simplement impossible. Et comme le phénomène est mondial, il faut qu'effectivement que les Nations Unies, dans le cadre de leur travail, soient non seulement présentes, mais extrêmement actives. Alors au niveau du Conseil de sécurité, nous faisons ce travail d'analyse et d'évaluation des capacités contre le terrorisme des États, mais aussi nous faisons, dans le cadre de l'analyse, la collecte de toutes les faiblesses, de tous les éléments qui sont nécessaires, et en particulier sur la coopération internationale en matière pénale. C'est la raison pour laquelle on a cette réunion entre les procureurs, les policiers, les gens qui s'occupent du soutien à ces deux institutions, parce que, effectivement, nous voyons que, malheureusement, la coopération n'est pas suffisante. Elle n'est pas suffisante pour plusieurs raisons, parce qu'on n'a pas suffisamment incorporé dans les législations nationales ce que nous avons fait au niveau international, et donc ça, c'est à nous de prendre en charge. Et deuxièmement aussi, parce que la coopération nécessite des moyens, des outils. Et ces outils ne sont pas forcément à la disposition des États. D'ailleurs, j'en profite pour souhaiter la bienvenue à l'ambassadeur russe près des Nations Unies à Vienne, qui actuellement vient d'être nommé secrétaire général adjoint pour la coordination du contre-terrorisme. Ça veut dire que toutes les agences des Nations Unies vont se mobiliser maintenant pour la lutte contre le terrorisme, encore plus que ce n'était le cas avant. Et nous, de notre côté, au Conseil de sécurité, qui sommes un organe à part, nous allons continuer à abreuver ces différents organes, mais aussi les États, avec toutes les analyses que nous avons faites.
Alors, vous parlez donc de la réforme en cours du système des Nations Unies contre le terrorisme. Il y a des points qui ont été marqués contre Daesh et contre les autres organisations. Clairement, l'État islamique recule aujourd'hui en termes financiers, en termes de contrôle de territoire. Est-ce que ça veut dire quand même que l'action qui a été menée depuis de longues années a quand même commencé à payer ?
Ah oui, elle a porté ses fruits. Par exemple, sur le plan financier, il y a encore 2 ans, Daesh avait des ressources entre 2,5 milliards et 3 milliards de dollars. Maintenant, ils n'en sont plus qu'à 13 millions de dollars. Ça, c'est la première des choses. En termes de réduction du territoire, c'est énorme. C'est 80% du territoire qui a été repris à Daesh. Ce qu'il faut aussi souligner, c'est qu'il y a à peu près entre 40 et 50% des combattants terroristes étrangers qui sont rentrés chez eux. Alors, c'est une bonne et une mauvaise chose. La bonne chose, c'est que c'est effectivement, ils ne sont plus dans les troupes de Daesh, mais ils reviennent vers leur pays. Pas forcément leur pays d'origine, d'ailleurs. Ils vont quelquefois dans d'autres pays. Pays d'où la famille était originaire, pays dans lequel il semble qu'ils aient plus de chances de se mobiliser autrement, etc. Mais c'est un danger très fort que constituent ces gens qui reviennent. Les combattants terroristes étrangers qui sont encore sous place et qui commencent à revenir, je dirais, au-delà des 50%, sont encore plus dangereux parce que c'était ceux qui étaient les plus impliqués dans les opérations. Mais on doit dire, premièrement, que la réduction des capacités de Daesh est une bonne chose. Deuxièmement, qu'il faut effectivement faire attention de plus en plus parce que sur cette période fragile, nous avons toutes ces personnes qui reviennent vers leur pays d'origine qui effectivement sont des dangers et nous en voyons tous les jours les effets dans plusieurs pays du monde, sont des dangers pour les pays dans lesquels ils reviennent et surtout pour les gens, pour la population au milieu de laquelle ils se fondent.
Comment l'ONU peut contraindre ou inciter les États justement à rejoindre la communauté internationale dans cet effort judiciaire et policier ?
Il y a deux éléments. C'est que quand même les résolutions du Conseil de sécurité sont des éléments contraignants. D'ailleurs, on parle souvent des résolutions du chapitre 7, mais les autres résolutions du Conseil sont aussi contraignantes. Elles n'ont pas la force exécutoire, mais elles sont contraignantes. Ça, c'est le premier point. Deuxièmement, nous avons une force qui est très spéciale. C'est qu'on n'est pas que l'ONU. À l'ONU ici et surtout à la DECT, on peut rassembler de nombreuses autres organisations internationales, par exemple Interpol, l'Organisation des États américains, le Conseil de l'Europe, d'autres éléments de l'ONU comme l'ONUDC. Donc on a une multitude d'organisations qui viennent travailler avec nous, les parlementaires comme par exemple l'Assemblée parlementaire de la Méditerranée et Interpol. Et il faut que les États sachent justement, devant cette menace globale, utiliser tous ces outils. Par exemple, Interpol a des fiches sur 15 000 personnes qui auraient été susceptibles de passer dans les zones de combat. Interpol a aussi des éléments de travail au niveau de 68 millions de fiches d'éléments de travail sur les zones de combat, sur les personnes, etc. Donc, je veux dire, par là, c'est extrêmement important. Et il faut que les pays aient accès à ça. Alors, quelquefois, les pays sont frileux. C'est-à-dire que, considérant que le terrorisme est avant tout une attaque à la souveraineté nationale, on pourrait dire, eh bien, ils oublient d'ouvrir un peu leur perspective pour travailler en collaboration avec d'autres États au niveau multilatéral. Ils travaillent au niveau bilatéral, ça arrive bien, ça se fait assez bien, mais on a besoin de cette vision coordonnée. Et pour cette vision coordonnée, il faut travailler au niveau multilatéral et rien de mieux que le Conseil de sécurité qui, effectivement, est le garant de la paix et la sécurité dans le monde.
Alors, ça veut dire que tous les États sont censés coopérer. Il y a des accusations qui montrent du doigt certains États qui coopéreraient non pas tellement avec la justice internationale, mais aussi avec les terroristes eux-mêmes et les financeraient. Est-ce que là également, c'est pris en compte ou est-ce qu'aujourd'hui, on n'a pas d'éléments contre ça ?
Moi, je n'ai pas d'éléments particuliers là-dessus actuellement. La seule chose que je peux dire, c'est que les États actuellement dans le monde, tous, d'après leurs propres critères, veulent travailler contre le terrorisme. Après, les différences politiques existent entre les États, les questions qui sont soulevées sont différentes. Mais ce que je peux dire, c'est que quand on fait l'évaluation des États, il y a une très grande volonté de participer, de s'améliorer, de faire les choses mieux. Et par exemple, je vois en matière de frontières, il y a beaucoup de travail qui se fait avec, par exemple, l'Organisation internationale de la migration. Et les États veulent travailler avec. Je pense que ça, c'est une chose qu'il faut. Ou aussi avec, par exemple, l'Organisation internationale de l'aviation civile, qui est en charge de toute la question des passeports en particulier, qui doivent être lisibles par des machines. Je ne vois pas d'État qui me disent non, on ne veut pas de machines pour lire les passeports. On ne veut pas avoir d'accès à la base Internet Interpol, etc. Je n'en vois pas. Alors après, la rapidité avec laquelle on travaille, ça c'est une autre chose. Et le financement du terrorisme, je vais vous dire, ici aux Nations Unies, clairement, ce que l'on voit, c'est de plus en plus des collusions entre le crime organisé et les organisations terroristes. Je ne dis pas que ce sont les mêmes organisations, ça peut être les mêmes. Mais en tout cas, ce qui se voit, c'est qu'il y a une collusion certaine. Quand vous voyez par exemple que, par exemple en Afghanistan, les zones talibans sont absolument calqué sur les zones dans lesquelles il y a la production d'opium et le trafic d'opium. Quand vous voyez, par exemple, que Boko Haram a fait des enlèvements par rançon une façon régulière d'obtenir des financements, qu'est-ce que c'est si ce n'est du crime organisé ? Et je peux en citer d'autres. Et je pense que dans les derniers rapports Daesh que nous avons produits au Conseil de sécurité, c'était exactement le cas.
Alors on parle de la coopération judiciaire, on parle de la coopération des polices, vous parlez d'Interpol. Pourtant, au niveau en amont de l'éducation, il y a un travail énorme à faire. Qu'est-ce qui a été amélioré sur ce plan-là et aussi en termes de recrutement, notamment via les médias sociaux ?
Oui, c'est un très bon point que vous soulevez. Il faut absolument qu'on travaille, et ça c'est plutôt les gens, nos collègues justement, qui vont travailler sous la direction du nouveau secrétaire général adjoint, qui travaillent ces questions de la manière de contrer l'extrémisme violent. Mais je dois dire que nous travaillons très bien aussi pour tout ce qui concerne le contre-message avec l'UNESCO, avec le PNUD, et il faut vraiment aller en amont pour travailler sur toutes les questions, comme on pourrait dire, de prévention de la délinquance, c'est-à-dire de prévention du terrorisme, tout simplement. N'est-ce pas ? Puisque le terrorisme étant une infraction, on pourrait dire qu'on doit travailler sur les questions de développement, d'éducation, d'une manière systémique. Et on peut travailler à partir de ce que l'on sait faire en matière de prévention du crime en général. Nous avons également travaillé sur toutes les questions relatives aux médias sociaux et à la presse, parlée, écrite. Nous travaillons beaucoup avec une organisation suisse qui s'appelle ICT for Peace, mais aussi avec tous les gens de l'Internet, que ce soit Microsoft, que ce soit Facebook, que ce soit Twitter, pour justement les aider et qu'ils nous aident. C'est un partenariat vraiment mutuel pour que l'on s'entraide, eux, à mieux comprendre les impératifs qu'ils doivent respecter parce qu'effectivement, ils n'ont aucun intérêt et personne n'a aucun intérêt à ce que le terrorisme se propage et en même temps conserver ses valeurs, droits de l'homme, liberté de la presse, liberté d'expression, liberté de penser, la première des libertés, qui sont essentielles et que nous devons défendre parce que ce sont les valeurs de la Charte des Nations Unies et du Pacte des droits civils et politiques.
Dernière question justement sur un maillon qui est souvent omis dans cette fameuse lutte contre le terrorisme, ce sont les victimes. Donc aujourd'hui, par rapport à ces victimes qui, au-delà des nations, au-delà des groupes, au-delà des religions, parce que c'est souvent la religion quand même musulmane qui est montrée du doigt par certains, qu'est-ce que vous pouvez dire sur les victimes et qu'est-ce qu'aujourd'hui le bilan que vous tirez de l'action de l'ONU pour justement soutenir et venir en aide aux victimes ?
Le terrorisme n'a pas de religion, parce qu'on peut, dire ce que l'on veut, mais je pense que la religion est un prétexte pour commettre une violence encore plus forte que celle qui sortait du crime organisé. D'ailleurs, c'est très intéressant, malheureusement, de voir que de nombreuses personnes qui versent dans la radicalisation et le terrorisme sont passées d'avant par la petite délinquance, la moyenne délinquance et voire la grande délinquance. Et donc, si vous voulez, il y a une relation de cause à effet entre la violence intérieure de l'individu et ses étapes à travers la violence institutionnelle. Et ils trouvent des raisons, ces individus, à travers telle ou telle religion, effectivement, ils trouvent des motifs, mais ces motifs-là sont des motifs erronés, mais ça ne leur importe pas. Ils veulent continuer. Malheureusement, du fait de leur conduite, il y a les victimes. Et je ne commence jamais mes allocutions sans donner une place importante aux victimes, parce que dans ce combat contre le terrorisme, elles sont souvent oubliées. Elles sont souvent oubliées par la nature même du combat. C'est-à-dire que comme les personnes qui deviennent des terroristes veulent mourir les armes à la main, il y a très rarement des procès. Or, le procès est un élément extrêmement important pour la reconstitution de la personne, si tant est qu'elle soit encore vivante, ou en tout cas pour ses proches, si malheureusement elle a été tuée dans l'action terroriste. Et c'est pour ça que cette réunion d'aujourd'hui est très importante, parce que toute la coopération internationale en matière pénale tend à traduire les terroristes qui sont actuellement accusés des pires maux et qui sont encore vivants. Ces terroristes-là doivent être appréhendés et doivent être traduits devant la justice pour que les victimes puissent avoir la voix qui leur revient devant les instances judiciaires des pays concernés.
Jean-Paul Laborde, merci.
À noter que depuis cette interview, les Nations Unies ont annoncé la création du Forum Internet mondial pour lutter contre le terrorisme. Cette initiative, qui regroupe les entreprises Facebook, Microsoft, Twitter et YouTube, vise à renforcer la ligne dure et les pratiques de retrait déjà existantes et à contrer davantage les activités des terroristes et extrémistes violents. Voilà, ainsi s'achève donc Escale, magazine préparé, présenté par Jérôme Longuet, avec la collaboration de Carlos Macias. Je vous rappelle que vous pouvez écouter sur Internet les magazines hebdomadaires, mais aussi le journal quotidien d'ONU Info. En attendant, merci de votre fidélité et rendez-vous à la semaine prochaine.